Alors pourquoi j'ai choisi ce thème de l'humilité? Parce que, dans les deux grandes qualités de Jésus, il est doux et humble de cœur. Donc, je pense qu'on ne se trompe pas en travaillant un peu la question de l'humilité. Et puis, il y en a qui disent que c'est la base de toutes les vertus. Si nous manque l'humilité, tout le reste, ça. Le curé d'Ars, c'est une belle image. C'est comme le chapelet. L'humilité, c'est la ficelle qui tient toutes les boules. Vous enlevez la ficelle, tout part. Donc l'humilité, ça vaut la peine d'en parler. Mais c'était en particulier pour trois raisons. Vous connaissez mon affection pour le chiffre 3. La Trinité, bien sûr. Voilà. En fait, il y a trois raisons qui m'ont conduit à parler de l'humilité. La première, c'est que quand il y a des gens qui sont humbles, les relations sont quand même plus faciles. Sitôt qu'on est, on n'est jamais complètement humble ou complètement orgueilleux, on est dans la zone grise entre les deux, mais on peut se rapprocher plus et plus de l'un que de l'autre, disons. Mais quand il y a que des gens qui tendent vers l'humilité, les relations sont quand même beaucoup plus faciles. Quand c'est entre gens orgueilleux, ça devient plus compliqué, les relations. Et du coup, je vis en communauté, donc je vois bien ce que ça peut être, et puis en famille, ça peut être la même chose. Mais parce que l'humilité, Jésus qui est doux et humble de cœur, l'humilité va de pair avec la douceur, une certaine douceur. Donc il y a moins de dureté, et donc les relations sont quand même, il y a un peu plus d'huile dans les rouages quand il y a de l'humilité. Quand il n'y a pas d'humilité, si les rouages sont bien ajustés, ça va, mais sitôt qu'il y a un petit grain de sable, alors là, ça devient compliqué. Donc, une citation du curé d'Ars. Une personne humble et instruite, si on lui demande son sentiment, lui dit bonnement, après quoi elle laisse parler les autres. Elle dit son avis, et puis après... Voilà, donc elle n'est pas particulièrement attachée à son avis, etc. Donc, quand ça se passe comme ça, imaginons une réunion de communauté, si chacun dit son avis, et puis après, alors il donne ses arguments et tout ça, mais après, il s'y cramponne pas dur comme fer, tout ça, c'est plus facile la réunion. Mais si chacun s'arc-boute sur son opinion et tout ça, ça devient plus compliqué les réunions à gérer, vous imaginez. Voilà. Et alors, notre fondateur a une expression, je trouve que c'est très beau, toujours l'humanité qui facilite les rapports, voilà ce qu'il dit. « Voilà le secret de la puissance des saints auprès des âmes, qui ne résistent pas à l'appel de Dieu par notre moyen. Les saints convertissaient les âmes, le cœur rempli de l'amour de Dieu, ils en déversaient le trop-plein dans les âmes avec humilité, tant de douceur que l'orgueil humain était vaincu. Satan, l'esprit d'orgueil, était chassé par l'amour de Dieu qui fait mouvoir les vertus de douceur et d'humilité qui entretiennent les plus douces harmonies de la paix. » Voilà. Alors donc, ça, c'était la première raison. Je me dis que c'est... on voit même au niveau international, s'il y avait plus d'humilité, ça simplifierait quand même beaucoup les choses. Voilà, alors ça c'était la première raison qui m'a incité à vous parler de l'humilité, mais on n'a pas besoin de regarder au niveau international, il suffit de regarder dans nos familles, dans nos communautés. Voilà. Et deuxième raison, c'est que l'humilité conditionne nos progrès. J'y reviendrai sans doute un peu plus. Quand on n'accepte pas les conseils, on fait moins de progrès, Mais il faut un peu d'humilité pour accepter les conseils, pour accepter les critiques, pour être constructive, bien sûr. Mais si on n'accepte aucune critique, aucune remarque, on ne fera pas beaucoup de progrès. Et je pense que ça, c'est important aussi dans notre vie spirituelle. Si on veut progresser, il faut accepter qu'on nous dise de se laisser interpeller par des choses qui ne nous caressent pas dans le sens du poil. Et ça, il faut un peu d'humilité pour accepter qu'on n'est pas parfait. Si on pense déjà être parfait, on n'a plus besoin d'avancer, puisqu'on est déjà arrivé. Mais l'humilité nous dit que non, on a encore un peu de chemin à faire. Voilà. Et troisième raison, alors là, ça revient tout le temps dans la Bible, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Ça revient tout le temps, On le voit dans le Magnificat, mais on le voit Saint Jacques, Saint Pierre, Saint Paul. Enfin bon, ça revient tout le temps. Hein, c'est le cœur humble qui a accès au cœur de Dieu. Le cœur orgueilleux, c'est, je sais pas, ça passe pas le courant. Et voilà, si on veut se connecter à Dieu, si je puis dire, ben, il faut un peu d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Voilà. Le curé d'Ars, je vais le citer à plusieurs reprises parce qu'il parle souvent de l'humilité. Il dit, l'humilité, c'est comme une balance. Plus on s'abaisse d'un côté, plus on est élevé de l'autre. Donc, voilà. En tout cas, ça nous rend réceptifs à la grâce, à Dieu lui-même et à sa grâce, l'humilité. Voilà. Donc, c'est les trois raisons pour, c'était en guise d'introduction, les trois raisons pour lesquelles j'ai eu envie de vous parler de l'humilité. Maintenant, il y aura trois parties. Ah tiens, j'ai pris les comptes d'un frère, c'est arrivé sur le photocopieur et je lui donnerai, hein, voilà. Alors, trois parties. La première, c'est un peu nos appréhensions par rapport à l'humilité, donc je vais développer un peu ça. Une deuxième qui vous surprendra peut-être un petit peu, mais je développerai, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Ce sera ma deuxième partie. Et la troisième partie, je donnerai 9 pistes pour progresser dans le sens de l'humilité. Ça vous va ? Donc, on est parti. Donc, d'abord, nos appréhensions par rapport à l'humilité. Il y a quand même des citations qui nous font un petit peu peur. Hein, quand c'est Sainte Bernadette, et c'est tout à fait juste, je ne contredis pas Sainte Bernadette, mais il faut beaucoup d'humiliation pour acquérir un peu d'humilité. Bon, je ne sais pas comment vous recevez ça, comme, mais... vous courez après les humiliations ou pas? Enfin, bon, ça me rassure, vous êtes à peu près normal. Bon, une chose est de les accueillir quand elles arrivent, autre chose est de courir après. Hein. Mais vous connaissez aussi les litanies de l'humilité, je voulais vous les donner, puis je ne l'ai pas fait, du cardinal Méridelval, elles sont assez connues. Non? Je vais vous les dire un petit peu, vous allez me dire si vous... si vous êtes à l'aise, voilà. Et c'est un saint cardinal hein, qui est mort en 1930. Donc il y a une première partie, c'est par rapport à notre désir d'être élevé, après notre crainte d'être abaissé, et puis après la tendance à nous comparer aux autres. Donc il y a un peu trois parties dans ces litanies de l'humilité. Du désir d'être estimé, délivre-moi Jésus. Du désir d'être aimé, délivre-moi Jésus. Du désir d'être exalté, délivre-moi Jésus. Bon, j'en passe un petit peu. De la crainte d'être humilié, délivre-moi Jésus. De la crainte d'être méprisé, délivre-moi Jésus. De la crainte d'être calomnié, délivre-moi Jésus. Voilà. Et puis après, que les autres soient plus aimés que moi, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres soient plus estimés que moi, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Que les autres puissent être choisis et moi mis de côté, Jésus, fais-moi la grâce de le désirer. Alors c'est très beau, mais en même temps, je ne suis pas très d'accord. Enfin, pas tout à fait d'accord. Pour une part, oui. Mais je dois vous avouer, moi j'aime bien être aimé. J'ai le désir d'être aimé. Et je pense que c'est assez normal de désirer être aimé, d'être estimé. Donc, moi, je ne me vois pas du désir d'être aimé, délivre-moi Jésus. Non, ça fait partie de mon humanité, de désirer être aimé. Alors après, c'est là qu'à mon avis, il faut quand même nuancer un petit peu plus. Bien sûr que si mais non, je gouverne la communauté, par peur de... si je me laisse arrêter dans une décision un peu difficile à prendre parce que j'ai peur que les frères ne m'aiment plus, bien sûr, là, c'est un problème. Parce que je ne gouverne pas pour être aimé par les frères, ça c'est clair. Je gouverne pour que... Enfin, je désire aussi qu'ils m'aiment. mais je ne gouverne pas pour ça. Pour ce que je pense être bon pour la communauté aussi, avec leur accord, parce que je ne les cite pas tout du haut. Mais du coup, du désir d'être aimé, non, je ne demande pas au bon Dieu de m'en délivrer. mais je demande de ne pas être submergé par ce désir d'être aimé au point que je fuis les conflits. S'il y a un conflit, mais il faut l'aborder, même si l'autre ne m'aimera pas, peut-être, ou s'il m'en voudra. Ça, c'est... Mais c'est autre chose que le désir d'être aimé ne soit pas au-dessus de tout. Oui, bien sûr, là, je suis d'accord, et que c'est la vérité avant le désir d'être aimé. Mais en même temps, moi, j'aime bien être aimé. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je vous dis simplement, peut-être que vous, c'est pas pareil. Hein. Mais voilà. Voilà, alors c'est... Il y a quand même une culture où on magnifie une humilité qui me semble pas très juste, pas tout à fait juste. Encore une fois, je suis d'accord avec la phrase de Sainte Bernadette, mais on n'est pas obligé de courir derrière les humiliations. En revanche, quand elles arrivent, les accueillir de notre mieux, oui, bien sûr. Et elle a tout à fait raison. C'est aussi peut-être, justement, c'est une manière un peu passive, en acceptant des choses qu'on n'a pas choisies, ben, qu'on grandit un peu dans l'humilité. Ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais de là à courir derrière les humiliations, il y a une petite nuance quand même. Alors, je continue dans cette même veine en relevant trois contrefaçons de l'humilité. Une première contrefaçon de l'humilité, c'est de se laisser écraser sans rien dire. L'âme, c'est pas celui qui se laisse piétiner comme un paillasson, et puis dit rien. Alors, dans certains cas, oui, Jésus, dans certains cas, se laisse, mais c'est pas son but. La finalité première, c'est pas de se laisser piétiner. De fait, il accepte sur le chemin de la croix. Mais ce n'est pas le but premier. C'est intéressant d'ailleurs. Vous vous rappelez la question, si on donne une gifle sur la joue droite dans l'autre joue, qu'est-ce que Jésus a fait dans la passion? Il n'a pas tendu l'autre joue. Il a essayé de faire réfléchir. Mais pourquoi me frappes-tu? Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément se laisser écraser comme ça. Et puis... Donc, je pense qu'il faut quand même... bien sûr, dans certains cas, il faut accepter d'être écrasé, et puis de l'accepter par amour. Pas comme un paillasson, mais par amour. Je pense que, dans certains cas, oui. Mais le but, le premier but, c'est pas de se laisser écraser. Si c'est parce que j'ose rien dire que je me laisse piétiner, non, ça, c'est pas moral. Je dois me faire respecter, je dois pouvoir dire non, là je ne suis pas d'accord. Alors après, il y a manière et manière de le dire, mais l'humilité, ce n'est pas se laisser piétiner sans rien dire. Ça, ce n'est pas l'humilité. Ça peut, dans certains cas, d'accepter d'être humilié, et puis oui, bien sûr. Mais on a le droit aussi d'être respecté pour une part. Alors, bon, après vous pourrez poser des questions peut-être pour préciser un peu. J'aime bien une réflexion du curé d'Ars. Il avait beaucoup de bon sens. Hein. Alors voilà ce qu'il dit. Alors c'est pas moi, hein. c'est pas ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui une grande dame de Paris qui m'a bien dit mes vérités. J'étais venue, disait-elle, pour entendre bien prêcher. Mais on prêche bien mieux ailleurs, etc., etc. Je lui ai répondu, c'est bien vrai, madame, je suis bien peu savant. Mais si vous faisiez bien tout ce que je vous ai dit, le bon Dieu aurait encore pitié de vous. Alors, bon, les critiques, ça l'empêche pas de rester d'aplomb, le curé d'Ars. Il dit, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui prêchent 10 fois mieux que moi. Bon, ceci dit, voilà, ça ne le fait pas rentrer sous terre, hein, ça ne le fait pas rentrer sous terre, les critiques de la bonne dame. Voilà. Mais vous aurez le droit de me critiquer après, surtout à la fin, mais pas pour vous couper l'herbe sous le pied. Bon, alors ça c'est une je crois que c'est une contrefaçon de l'humilité, c'est penser que l'humilité c'est se laisser écraser sans rien dire. Non, dans certains cas oui peut-être, mais pas universellement. Hein? Voilà, ça demande un peu de discernement quand même. L'humilité c'est pas non plus la pusillanimité. Vous connaissez parfaitement ce qu'est la pusillanimité. C'est pas la pusillanimité, se laisser un peu ratatiner. Non, je suis pas capable, et puis de ne pas déployer ses dons. Ça, c'est pas de l'humilité. La pusillanimité, c'est un défaut, c'est pas une qualité. Saint François de Sales reconnaît les gens qui n'osaient pas mettre leur talent au service de Dieu en disant « Oh oui, mais j'ai des défauts » ou « Peut-être je pourrais devenir orgueilleuse », tout ça. Il dit « Non, non, c'est une fausse humilité, là. Il y a une fausse modestie, où sous prétexte d'être humble, on n'est pas obligé d'avoir le culte du moche ou du... Voilà, on peut aimer ce qui est beau, sans être orgueilleux pour autant. L'humilité, c'est pas voir que les choses soient les plus moches possibles, non, ou les plus inconfortables possibles, voilà. On voit bien avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça pourrait presque nous paraître un peu prétentieux, mais elle, la petite voix, alors on pourrait penser la petite voix, voilà, on se met dans notre coin et tout ça, mais ma vocation, je l'ai trouvée, ma vocation c'est l'amour, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, oh mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Elle ne prend pas la place du doigt de pied, elle prend la place du cœur quand même. Elle manque pas d'air, en un sens, on pourrait dire. Mais voilà, ça c'est de la vraie humilité. L'humilité, c'est pas toujours prendre les choses les plus... Ça c'est une fausse humilité, une fausse modestie. On a besoin de modestie, ça nous fait du bien. Mais pas une fausse modestie qui serait pas ajustée. Et le troisième point, c'est, ça rejoint un peu, mais c'est... La pusillanimité, c'est plutôt je ne suis pas capable de faire des grandes choses, etc. Là, c'est plus au niveau de l'être. L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser. L'humilité, c'est pas à se considérer comme nul. Ça, c'est une fausse humilité. Parce qu'on n'est pas nul. Et c'est une offense à Dieu de se considérer comme nul. Parce que lui, il ne nous a pas voulu nul. L'humilité, c'est pas avoir une vision négative de soi-même. C'est saint Thomas d'Aquin qui dit « L'humilité, c'est la vérité. » Alors, c'est à la fois voir nos qualités et nos défauts. Et c'est les deux, il faut voir les deux. Pas seulement les qualités non plus, mais... c'est saint François de Sales qui dit « Il y a des personnes qui s'amusent à une fausse et niaise humilité qui les empêche de regarder en eux ce que Dieu a mis de bon. » Vous vous rappelez peut-être du texte de saint Paul, on l'appelle quelquefois, il y a un titre, c'est « La vantardise de saint Paul ». C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Je vous cite que des tout petits extraits, mais « Tant d'autres se vantent à la manière humaine, et bien moi aussi je vais me vanter. Son ministre du Christ, et bien moi, je vais dire une folie, moi je le suis davantage. » Dans les fatigues bien plus, dans les prisons bien plus, sous les coups largement plus, en danger de mort très souvent. S'il faut me vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Et c'est après que le chapitre 12, où vous connaissez, ma grâce se suffit, ma puissance, donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Donc voilà. Alors du coup, ça c'était pour... Dans cette première partie, voilà, on a quand même des appréhensions par rapport à l'humilité, parce que quelquefois il y a des contrefaçons de l'humilité, et je pense que si on doit vivre l'humilité, ce n'est pas les contrefaçons qu'on doit vivre. Alors, la deuxième partie que je vous ai annoncée, c'est l'amour de soi. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre. De prime abord, mais quand j'ai préparé à un certain moment, je me suis dit, mais non, il faut vraiment que je développe là-dessus, sinon ça sera pas juste. Pour parler de l'amour, de l'humilité, je vous parle de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi précède l'humilité. Et tout ça, c'est parti de la réflexion d'un chartreux que j'ai lu il y a des années, qui disait qu'on ne pouvait pas avoir d'humilité si on n'avait pas une estime de soi. Ce n'est pas possible. Pour commencer à être humble, il faut d'abord avoir une estime de soi. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Parce que c'est comme, parce que accepter les critiques et tout ça, ça va si vous êtes, si vous avez une estime de vous-même, vous vous accueillerez. Et puis, mais si vous n'avez aucune estime de vous-même, ça vous fait tomber dans un trou sans fond. Et ça vous détruit. Donc, avant de parler de l'humilité, il faut parler de l'amour de soi. Et je pense que c'est très important pour nous-mêmes et puis vis-à-vis des autres, parce qu'il y a des gens qui nous paraissent orgueilleux, mais peut-être que c'est une façade parce que derrière, ils ont pas assez d'estime d'eux-mêmes, etc. Donc, il faut bien se garder de porter des jugements, une étiquette orgueilleuse ou tout ça. Alors, après, c'est le bon Dieu qui juge, c'est pas notre travail. Mais du coup, je pense que ça me semble quelque chose de très intéressant, en tout cas, de commencer par l'amour de soi. Alors, dans notre culture, on peut avoir un peu de méfiance par rapport à l'amour de soi. Ça fait un peu égoïste, un peu... Et dans certaines formes d'éducation, quelquefois, on ne fait jamais de compliments. On ne manifeste pas beaucoup d'amour, etc. Alors du coup, c'est vrai que... voilà, il y a des... Et puis, il y a une mauvaise interprétation de certaines phrases de l'Évangile. Alors, il y a une traduction qui dit de haïr jusqu'à sa propre vie. Hein. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors, quelquefois, du coup, on dit, mais c'est mauvais de s'aimer soi-même. On ne devrait pas s'aimer soi-même. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour se haïr, en quelque sorte. L'amour de soi, chronologiquement, il faut d'abord l'amour de soi avant l'humilité. Parce que justement, c'est le commandement, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain, comme toi-même. Hein. L'amour de soi fait partie du commandement. Et dans la tradition catholique, c'est quelque chose d'assez clair. Et c'est saint Augustin, hein, donc il y a déjà longtemps, qui dit que l'amour de soi est la racine de l'amour du prochain. Alors il y a une expression qu'on emploie quelquefois, alors, de manière plus ou moins ajustée, hein, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est vrai, mais il ne faut pas dire elle finit pas par soi-même, elle commence. Attention. Parce que, oui, l'amour de l'autre aussi, je pense à partir du... On le sait bien, de toute façon, c'est une expérience qu'on fait. À partir du moment où on est bien, on peut donner aux autres. Si on va vraiment trop mal, on ne peut pas donner aux autres. Donc, c'est important de vraiment s'aimer, etc. À ce moment-là, on peut vraiment donner aux autres quand on s'aime. Hein, mais il ne s'agit pas de s'aimer égoïstement et d'être... on aime pour donner ensuite. La charité, elle commence, bien ordonnée, commence par soi-même, mais elle finit pas par soi-même. La destination ultime, c'est pour se donner. C'est pour donner sa vie pour ses amis, comme dit Jésus. C'est le père Brugès qui disait à la suite de saint Thomas, l'estime de soi-même est le fondement même de la vie morale. Pourquoi c'est le fondement? Parce que... il faut d'abord se posséder soi-même avant de se donner. Si on n'est pas soi-même, on aura du mal. On donnera à l'autre qu'un ectoplasme. Mais c'est se donner soi. Si je veux me donner à l'autre, je ne lui donne pas juste quelque chose extérieur à moi. Je me donne à lui. Mais ça suppose d'être quelqu'un. Enfin, encore une fois, être quelqu'un de manière saine, pas de manière narcissique. Vous sentez bien. Il y a un beau texte de saint Bernard qui dit « Si tu es sage, montre-toi vasque et non pas canal. » Un canal reçoit l'eau et la répand presque tout de suite. ne vase qu'en revanche attend d'être rempli et communique ainsi sa surabondance sans se faire de tort. Dans l'Église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de canaux, mais très peu de vasques. Ceux qui font ruisseler sur nous les fleuves célestes ont une charité si grande qu'ils veulent se répandre avant d'être remplis. Mais tu vas me dire, la charité ne cherche pas son avantage. Oui, mais sais-tu pourquoi ? Elle ne cherche pas son avantage parce qu'elle ne manque de rien. Voilà, c'est une citation de Samana. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir peur de s'aimer soi-même. Mais bien sûr, après, elle déborde aussi la vasque pour abreuver les autres. Et c'est Saint Bernard encore qui disait au pape qui était son fils spirituel, « Occupe-toi des autres, mais ne t'oublie pas toi-même. » Ça va dans le même sens. Vous le retrouverez dans une homélie de Benoît XVI du 20 août 2006, je crois, où il parlait justement, c'est Eugène, je crois, le prénom de ce pape, il me semble, mais je ne voudrais pas l'assurer absolument. Donc c'est un moine qui est devenu pape, en fait, donc il a continué. Alors, autre chose, toujours dans la... C'est d'apprendre à s'émerveiller aussi des bienfaits de Dieu pour nous. Vous connaissez, j'en parle souvent, mais parmi les dernières paroles de Sainte Claire d'Assise. Oui, béni sois-tu Seigneur de m'avoir créé. Souvent, je me mets à la place du bon Dieu, c'est à peine prétentieux. Hein, en disant, ah, au moins quelqu'un qui est content de ce que je lui ai donné. Sinon, tout son râleur, il voudrait être autrement, plus grand, plus petit, plus grand, plus... Enfin, je ne sais pas, plus intelligent. Tandis que quelqu'un qui est heureux, je crois que ça a dû faire plaisir au bon Dieu. Il a dû aller bien tout de suite, pas de souci. L'amour de soi, c'est aussi aimer ce que Dieu nous a donné. C'est honorer celui qui nous a donné. Hein, Alors, c'est avoir bien conscience que ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu. Hein. C'est saint Paul qui dit « Ce que je le suis par la grâce de Dieu. » Et du coup, j'y reviendrai peut-être un tout petit peu, mais je pense que la louange a sa place aussi pour grandir dans l'humilité. Je parlais de l'amour de soi, mais la louange, ça va un peu dans cette même veine, s'émerveiller devant ce que Dieu nous a donné, devant ce que Dieu est, hein, d'abord. Parce que la louange, ça nous décentre beaucoup de nous-mêmes. Alors, la louange, ce n'est pas celle du pharisien qui, dans le temps, « Ah, je te bénis, je ne suis pas comme les autres », etc. Ce n'est pas une louange comparative ou tout ça hein, qui appuie sur la tête des autres pour s'élever. C'est pas ça, cette louange. C'est une louange pure et gratuite. Je te bénis pour ce que tu m'as donné, ce que tu as donné aussi aux autres. Hein. C'est pas une louange qui abaisse. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Ah non. Bon, là, on pourrait citer le Magnificat, on pourrait citer beaucoup de... Hein, Marie... C'est quand même... tous les âges me diront bienheureuse, etc. Mais Marie est humble. Hein, c'est l'humilité, c'est la vérité. Alors, j'ai pensé à quelques repères pour évaluer votre estime de vous-même. Il y en a un qui me fait un peu rire, mais... bon, je vais vous le dire quand même. En fait, je les ai un peu bricolés, mais... au point de départ, j'ai repris la liste de Christophe André, d'un livre qui est « Imparfait, libre et heureux ». Et alors, voilà quelques... c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant pour voir un peu où on en est de l'estime de nous-mêmes. Dire ce que je pense. Quelquefois, on a un peu peur de s'exprimer devant les autres. Bon. Deuxième, c'est... Me mettre en maillot de bain, même si mon corps n'est pas parfait. Enfin, là, on vous demande pas ça à l'abbaye. Hein. Mais là aussi, l'estime de soi et notre corps fait partie de nous-mêmes. Troisièmement, oser dire non ou stop pour me faire respecter. Quatrièmement, trouver que je suis quelqu'un de bien, avec mes qualités et mes défauts, mes succès et mes échecs, être conscient de mes capacités, mais aussi de mes limites et faiblesses. C'est, voilà, une autre... Cinquième, parler de moi en termes mesurés, ni excessifs, ni dépréciateurs, sans me comparer aux autres. Savoir pas se... Il y a des personnes qui ont tendance à se déprécier toujours, et d'autres qui ont plutôt tendance à se mettre au-dessus du panier, mais voilà. Donc, mais en termes mesurés. Voilà. Sixièmement, accueillir les compliments en disant simplement merci, sans se justifier ni rabaisser la parole de l'autre. Ça s'apprend aussi, hein. Au début, moi, j'étais incapable. Je dis non. Maintenant, je dis non, oui, merci. Pourquoi? Parce que je me dis, mais je suis stupide. Ils me remplissent mon réservoir pour me donner davantage après. Et moi, je veux pas qu'ils me remplissent mon réservoir. Et après, voilà. Alors, il s'agit pas de s'enorgueillir. Mais quelquefois, ça nous fait du bien pour aller plus loin. Il ne s'agit pas, encore une fois, mais simplement d'accueillir. Alors, le sixième, c'est accueillir les compliments. Le septième, c'est être capable de rire de mes défauts quand les autres me le font remarquer. Hein, les deux vont ensemble. Et ça, peut-être le septième est plus difficile que le sixième. Je ne sais pas pour qui, mais... Alors, je relis le septième. Être capable de rire de mes défauts et de mes failles sans me sentir anéanti ou attaqué personnellement. C'est vrai que si on n'a pas du tout d'estime de soi-même, on nous fait une critique, on tombe au fond du puits, et puis voilà. Et du coup, ça se travaille, hein, l'estime de soi-même, c'est pas quelque chose, ça se travaille aussi, pour justement prendre un peu de distance, peut-être par rapport à ce qui m'est dit. C'est pas parce que la critique est violente que je suis nul. Bon, après... Il y a l'autre aussi, et puis ça part. Hein. Huitièmement, accepter mes émotions et me savoir vulnérable. Et neuvièmement, arriver à penser à autre chose qu'à moi. Donc l'estime de soi, ça ne ferme pas sur soi-même. Mais ça ouvre aux autres. Hein, voilà. Alors c'était quelques petits critères. Bon. J'arrive à la troisième partie, la plus consistante, que vous attendez avec impatience, certainement. Bon, mais on en donne dur, là. Hein. Je vais changer mon titre, j'avais mis « Êtes-vous humble ?» Mais, voilà. Non, en préparant, je me suis dit que... bon, c'est pas ma manière de faire des réflexions très, très savantes sur l'humilité. Bon, c'est pas... je suis plus pragmatique. Alors, je suis tombé sur Internet sur une page qui donnait les 8 signes des personnes orgueilleuses. Alors, l'auteur, voilà, selon l'auteur, il existe 8 signes qui permettent d'identifier les gens orgueilleux. Ah. Rares sont ceux qui les cumulent tous, heureusement. Mais si vous reconnaissez la présence de 3 signes ou plus chez la même personne, vous pouvez probablement la considérer orgueilleuse. Voilà. Alors, l'idée que j'ai trouvée sympathique, c'est d'avoir une série de signes. Une série de signes. Parce que l'orgueil et inversement l'humilité, ça, il y a beaucoup de portes d'entrée, hein, parce que l'orgueil peut se manifester de bien des manières. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de ce point de vue-là. En revanche, ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est que le but, c'est pas tellement. Si je vous parle, c'est pas pour repérer l'orgueil chez les autres, c'est chez vous-même. Alors ça, c'est un peu plus dérangeant, mais je trouve que c'est un peu mal parti de se mettre, tiens, pour regarder les autres, sont-ils orgueilleux, tout ça, sachant que Saint-Jacques nous dit, Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? Déjà, on se met dans une posture orgueilleuse en jugeant les autres. Donc, c'est un peu mal parti. On fausse déjà un peu l'étude, si on peut dire. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi parce que l'orgueil, ça peut être assez subtil. Vous voyez déjà entre ce qui est de l'ordre de la blessure, et du coup qu'on veut compenser par une attitude un peu orgueilleuse, mais l'attitude peut être orgueilleuse sans que le cœur soit orgueilleux. Enfin, il y aurait sans doute quelques nuances à mettre dans tout ça. Donc gardons-nous bien de juger les autres et d'appliquer l'étiquette aux personnes orgueilleuses. Peut-être qu'elle a des attitudes orgueilleuses, mais autre chose est qu'elle ait des attitudes orgueilleuses. Autre chose est que ça soit un monstre d'orgueil. C'est pas la même chose. Et puis en plus, je vous propose pas les. Il y aura pas 8 signes, mais 9. Ce que je vous propose, c'est pas pour faire le checklist. Ah, je suis humble. En plus, au bout des 9, je suis pas sûr que vous les cochez. Mais. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens. J'aime la réaction de Saint Pierre. Donc, vous vous rappelez, il a renié Jésus, c'est quand même pas vraiment bien, vraiment pas bien. Et puis, sur le bord du lac, Jésus qui pose 3 fois la question « M'aimes-tu ?» Alors, la 3e fois, Pierre est tout peiné, parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il lui répond, Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et du coup, j'aime bien cette réflexion de Saint-Pierre. Voilà, c'est toi qui sais. Après, c'est. Donc, c'est. En revanche, je pense que c'est intéressant de travailler sur nos attitudes orgueilleuses pour progresser petit à petit. Et puis, voilà. Il y a eu un article, je crois que c'était cette semaine, de Françoise Lecor, qui a écrit un petit livre sur l'humilité, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà ce qu'elle dit. L'humilité ne se promeut pas elle-même. C'est une disposition extrêmement discrète, un peu furtive. Ce n'est même pas un objectif que l'on peut se mettre sous les yeux. Ce que l'on peut avoir comme but, c'est de corriger un peu l'orgueil qu'on a pu repérer en soi. Mais vouloir poursuivre l'humilité, c'est risquer de la contrefaire. D'ailleurs, les gens humbles ne se connaissent pas en tant que tels. Je trouve que c'est assez juste. Enfin, ça me paraît juste. Et avant d'entrer dans les 9 pistes, je pense qu'il faut prier pour demander, c'est une grâce l'humilité. C'est pas la force du poignet. Voilà, je suis arrivé, je suis humble. Là, ça devient un peu douteux à partir de ce moment-là. C'est, ben voilà, je t'abandonne les choses, un peu comme Saint-Pierre, mais éclaire-moi pour que j'avance dans ce sens de l'humilité. Hein. C'est plutôt, je crois que... Voilà. Alors, j'y vais. La première. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus caractéristique de l'orgueil, c'est de se placer au centre du monde. Hein, c'est plus la Terre qui tourne autour du Soleil, mais on fait tourner tout autour de nous-mêmes. Ça c'est. Donc, le problème, encore une fois, c'est pas l'amour de soi. C'est quand l'amour de soi est désordonné, quand il prend toute la place et qu'il n'y a plus de place pour aimer les autres. Quand on se met au centre du monde, c'est là que se pose le problème. C'est pas de s'aimer soi-même. Alors, je crois que c'est Pascal Hyde qui parle de... C'est Saint Jean Chrysostome qui dit que c'est une hydropisie de l'âme. Bon, il y a une forme de narcissisme où il y a des gens qui sont très autocentrés. Ça, c'est une caractéristique. Encore une fois, il ne s'agit pas de poser un jugement sur la personne, mais sur l'attitude, oui. On est en train de lire un livre au réfectoire et... Au bout d'un moment, on n'en peut plus. L'auteur, il est très autocentré. Bon, on n'arrête pas la lecture par vertu, mais c'est vrai qu'à un certain moment, c'est un peu agaçant de sentir que c'est lui un peu qui est au centre. C'est pas les martyrs dont il parle, c'est lui et ce qu'il a vécu à ce moment-là. Ben, oui, mais ça ne nous intéresse pas, c'est ce que les martyrs ont vécu. Voilà. Et du coup, le moi peut prendre tellement de place qu'il n'y a plus de place pour aimer Dieu et les autres. Il y a un lien assez fort entre l'humilité et la charité. Voilà ce que dit Saint François de Sales, par exemple. L'humilité qui ne produit pas la générosité est indubitablement fausse. Il n'y a pas de véritable humilité sans charité. Dieu ne se plaît que dans les cœurs approfondis par l'humilité et élargis par la charité. Mais celui qui est trop autocentré, mais il n'est plus capable de... On est fait pour se donner aux autres, s'aimer pour se donner. Être la vasque, mais pas le tonneau. Alors encore Françoise Lecor qui dit « Les personnes humbles ont une extraordinaire liberté, car elles ne sont pas encombrées d'elles-mêmes. Elles sont souvent très actives, très données. Cela va avec la liberté de créer, d'inventer, sans se préoccuper de soi-même, sans se soucier de la place qu'on occupera. La vraie humilité est inconsciente d'elle-même. Les orgueilleux ne sont pas joyeux, ils sont contents d'eux, certes, ou essayent de l'être, mais ils ne sont pas en paix, alors que l'humilité est accompagnée d'une sérénité qui permet aux personnes d'être totalement libres d'être ce qu'elles sont. » Voilà. Alors ça, c'est cette première trait de l'humilité, peut-être que nous sommes appelés à vivre, c'est justement de ne pas se regarder soi-même, mais d'avoir les yeux ouverts sur les autres et leurs besoins autour de nous. Je crois que ça, c'est déjà une manière de sortir de l'auto-centrement, je ne sais pas, comment on dit, mais voilà, de plus être au centre. Une deuxième piste, là, c'est ceux qui veulent être au centre. Là, c'est être au centre de l'attention des autres, ce qui est un peu différent. Ça se rapproche plus de la vanité. On essaye d'attirer l'attention, on raconte nos exploits et tout ça, on fait un peu d'étalage, etc., pour que, voilà, on cherche la reconnaissance des autres. Dans cette forme dans la vanité, on cherche une reconnaissance, peut-être parce que justement, on n'a pas assez d'estime de soi, et du coup, on essaie de la trouver dans le regard des autres. À certains moments, on a besoin d'être confirmé aussi par les autres, et ça demanderait un peu de... pour distinguer un petit peu, mais c'est François de Sales qui prend cette image. Il se moque gentiment, il avait pas mal d'esprit, Saint-François de Sales, des gens qui avaient des superbes moustaches, et les gens, c'est beau, mais ils admirent les moustaches, mais c'est plutôt celui qui a fait les moustaches qui devrait les remercier. Ou une dame qui porte une belle robe, c'est moins le cas aujourd'hui. Ben non, c'est la couturière qu'il faut remercier, même si la dame qui est dedans est belle. Voilà. Ou l'âne, c'est l'âne qui porte les reliques. Et alors, bien sûr, tout le monde s'agenouille, tout ça. L'âne pense que c'est pour lui, mais en fait... Ben voilà, ça c'est la vanité. C'est la vanité qui... Et cette vanité, ça nous rend assez esclaves du regard des autres. Je pense que tous, plus ou moins, c'est compliqué d'être libre par rapport au regard des autres. C'est pas forcément si simple que ça. Et alors ça, c'est un chemin d'humilité, de faire les choses, quel que soit le regard que les gens porteront. Par exemple... Je donne à un pauvre. Bon, s'il n'y a personne, je lui donne 10 centimes. S'il y a du monde, je lui donne 10 euros. Voilà, c'est de faire les choses qu'il n'y ait pas de différence entre ce que je fais dans le secret ou ce que je fais sous le regard des autres. Je trouve que ça peut être une piste intéressante. Et le curé d'Ars qui dit... qu'on se moque d'elle, qu'on l'estime, qu'on la loue, qu'on la blâme, qu'on l'honore, qu'on la méprise, qu'on fasse attention à elle, qu'on la laisse de côté, ça lui est bien égal. Nous ne devons tenir aucun compte des louanges que les hommes nous adressent ou des injures que nous recevons. Nous sommes aux yeux de Dieu ce que nous sommes, ni plus ni moins. Nous ne devons nous occuper qu'à lui être agréable. Alors, ne pas vouloir être au centre des autres, vous sentez qu'il y a toujours une note juste à trouver. On peut être au-dessus ou en dessous. Et quelquefois, il y a des gens qui ne parlent pas du tout d'eux-mêmes. Ce n'est pas forcément juste non plus. Dans notre règle de vie, comment c'est pour les récréations, c'est joyeuse expression de soi. Et, ni mutisme, ni verbiage. Et on se situe entre deux. Il ne s'agit pas d'occuper toute la place, mais il ne s'agit pas non plus de disparaître. Les autres aimeraient peut-être savoir un peu plus qui on est. Voilà. C'est une manière de se donner aussi. Donc, vous voyez que il faut garder la note juste. Si, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être au centre de l'attention de tout le monde. On arrive dans la pièce, tout le monde se tourne vers nous. Non, ce n'est pas ça qu'on cherche. Mais en même temps, il ne s'agit pas de rentrer dans notre trou de souris. C'est pas forcément juste non plus. C'est pas forcément une humilité ajustée. Voilà, j'en suis qu'au deuxième. Hein. Troisième. Se considérer comme supérieur aux autres. Hein, c'est des nuances un peu différentes à chaque fois. Alors, dans la langue française, il y a des mots qui indique toutes ces nuances. On parle de l'orgueilleux comme quelqu'un de superbe. Parce qu'il est très beau, mais parce qu'il domine les autres. Hein, il se croit. Et il y a une forme de suffisant, d'arrogance. Voilà. J'ai pas retrouvé le passage, mais je crois que c'est un évêque. Il y a une religieuse dans un monastère qui a un renom de sainteté, tout ça. L'évêque est un peu, il n'est pas tout à fait sûr. Il dit qu'il y a quelque chose. Donc il arrive et il demande à la sœur de lui faire ses chaussures. La sœur, elle est offusquée quand même qu'on lui demande ça. Mais bon, allez, c'est réglé. Sa sainteté n'est pas encore arrivée au top. Donc, c'est dans notre relation avec les autres, c'est justement, celui qui est humble ne se met pas dans une position dominante par rapport aux autres. Et quelquefois, c'est assez subtil, quelquefois, dans nos relations. Et une position dominante, c'est pas la même chose. Bon, quand on exerce une autorité, ce qui est mon cas actuellement, mais je dois exercer l'autorité. Et je ne dois pas abdiquer mon autorité, sinon ça ne marche pas. Mais en même temps, il y a manière et manière de le faire. Il y a une manière dominante ou il y a une manière où je suis au service de la communauté, même si à certaines fois, il faut trancher. Mais ça fait partie du travail, si je puis dire. Donc, c'est pas où les parents vis-à-vis de leurs enfants, bien sûr, ce n'est pas les enfants qui prennent les décisions. C'est les parents qui prennent les décisions. Alors, selon l'âge, etc., ils peuvent les faire participer peut-être plus ou moins. Mais c'est les parents qui prennent les décisions quand même. Et du coup, mais autre chose est de prendre les décisions, autre chose est d'être dans une position dominante qui a tendance à humilier l'autre, à écraser un peu l'autre. Ne soyez jamais intrigant ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. On rapporte quelque chose, je trouve que c'est très beau de notre fondateur. Quand il rencontrait des gens, les gens se sentaient grandis. Et c'est comme s'il les regardait d'en bas, donc d'un seul coup, il sentait qu'ils étaient quelqu'un quand il les regardait. Et ça, c'est une caractéristique plutôt de l'humilité, de ne pas se sentir dominé ou regarder un peu de haut, mais au contraire, d'être comme mis sur un piédestal. Alors, le curé d'Ars, et elle a des expressions quand même, il avait un vrai génie, hein, le curé d'Ars. Vous voyez bien que quand vous êtes là, ça va encore. Mais quand je suis seul, je ne vaux rien. Je suis comme les zéros qui n'ont de valeur qu'à côté des autres chiffres. Une image sympathique. Voilà. Et pour donc cette, ce trait d'orgueil qui est se considérer comme supérieur aux autres, un beau moyen pour avancer dans l'humilité, dans ce cadre-là, c'est d'obéir. Ça peut être obéir à, bon, dans le cadre de la famille, alors il faut voir, là, ça peut être dans le cadre d'une communauté, ça peut être dans le cadre de l'Église. C'est Saint Benoît qui disait que le premier degré d'humilité est l'obéissance sans délai. Et notre modèle dans cette... C'est Jésus, hein, on va vivre la Semaine Sainte, hein, vous connaissez par cœur le deuxième chapitre de l'Épître aux Philippiens, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était une troisième piste. Il n'y en a plus que six. Quatrième piste, c'est un trait d'orgueil, quelquefois, ça peut être une attitude, c'est d'avoir du mal à demander de l'aide. C'est Pascal Hyde, quand il parlait de l'orgueil, il disait l'orgueilleux, il vit pour lui, alors c'est celui qui se met au centre, ou il vit par lui. Il a du mal à demander de l'aide. C'est plutôt quelqu'un qui est un peu indépendant. Et on peut le faire. Ça peut être aussi vis-à-vis de Dieu. Finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de sa grâce ou est-ce que voilà. Donc c'est finalement se faire à la force du poignet. Quelquefois, ça peut tenir aussi à notre histoire où on a dû se battre pour et du coup après, ben voilà, on a du mal à se laisser aider par les autres. Et du coup, c'est important, bon, pour les relations conjugales, mais fraternelles aussi, parce que sinon. Et dans nos relations, il faut qu'il y ait une respiration entre le donner et le recevoir. Si on est toujours en train de donner, quand on donne, on est plutôt dans une position supérieure. Mais jamais dans le recevoir, il y a un déséquilibre qui se produit. Il faut savoir recevoir aussi de l'autre. Je prends souvent l'exemple, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours une dame dans mon exemple, mais alors j'ose pas, là, devant vous, là. Mais c'est... C'est le mari très attentionné qui veut aider sa femme à faire du ménage, donc il prend le chiffon, il fait consciemment le tour des choses. Sa femme lui dit « Mais non, c'est pas comme ça !» Et puis à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, elle trouve toujours des choses à redire. Du coup, il se décourage. Sa secrétaire, elle est quand même plus complaisante. Mais c'est plutôt de dire « Voilà, se laisser aider, mais selon ce que l'autre peut me donner. » Si je mets la barre trop haute, ben évidemment, l'autre ne pourra pas m'aider. Mais c'est pareil avec vos enfants. Bien sûr, c'est important qu'ils vous aident. Mais bien sûr, il faut que, selon leur capacité, selon leur âge, etc. Donc, mais c'est important. Sinon, la relation, elle n'est pas bonne. On est plutôt dans la situation de donner, qui est une situation plutôt dominante. Et voilà, alors du coup un effort ça peut être d'apprendre à demander de l'aide. Alors à certaines personnes ça leur coûte terriblement, mais c'est une vraie voie de sainteté, mais qui peut être compliquée. Ça peut être déjà de demander de l'aide à Dieu dans la prière et de passer du temps gratuit devant Dieu en attitude de réceptivité quelque part. Parce que celui qui est comme ça, il a envie d'agir, etc. Il a envie de faire plein de choses et c'est pas forcément mal. Hein. On est content qu'il y ait des gens actifs dans une communauté, sinon ça devient compliqué. Mais en même temps, non, c'est d'être le serviteur inutile et de savoir d'être dans cette position de recevoir. Voilà. Cinquième voie, c'est vouloir avoir toujours raison. Toujours vouloir avoir raison. Là aussi, d'apprendre à accueillir un avis qui n'est pas le mien, une autre proposition qui n'est pas forcément optimale de mon point de vue, mais d'accepter d'autres positions. Ça, c'est, on voit que c'est en communauté, mais en famille, c'est partout pareil. Vous connaissez un texte du patriarche Athénagoras, je vous en lis une petite partie, c'est un très beau texte, mais qui illustre bien ce cinquième point. Il faut mener la guerre la plus dure, qui est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente des meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Voilà. Et je crois que ça, c'est une vraie voie de pacification aussi, et d'humilité. Sixième, vouloir être parfait. Alors, c'est bien en un sens, mais ça a ses limites. Parce que justement, il faut consentir à ne pas être parfait. Parce que de fait, de toute façon, on n'est pas parfait. Mais du coup, ça, c'est à l'accepter profondément d'avoir des manques, d'accepter d'être vulnérable. Et que ce n'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on est nul. Saint François de Sales revient aussi là-dessus en disant que, en fait, ce qui est le plus important, c'est, peu importe les imperfections, alors je vous le lis, ça sera mieux. Il ne faut pas désirer d'être délivré de ces imperfections, sinon parce qu'elles déplaisent à Dieu, car il est bon pour nous tenir en humilité et résignation, qui sont deux manières de s'unir à Dieu, que sa volonté soit faite en nous, les autant ou en nous les laissant, pourvu qu'il soit glorifié en elle. On glorifie quelquefois davantage Dieu avec des défauts que, voilà, en se lamentant sur nous-mêmes. C'est de... Voilà. Humiliez-vous, c'est encore François de Sales, humiliez-vous d'une humilité douce et paisible et non pas d'une humilité chagrine et troublée. Ah zut, je voulais réussir tel effort pour mon carême, pas de chance. Et alors vous tournez en rond parce que vous êtes déçu de vous-même, ben voilà, non, c'est pas vraiment l'humilité. Hein. Ben voilà, je suis comme ça, j'ai encore raté, mais bon, ça ne veut pas dire que je vais baisser les bras, mais... Septième, refuser de reconnaître ses torts. Alors, c'est un peu différent de vouloir avoir raison. Hein. Ses torts, c'est justement ce qu'on a. C'est la manière d'accueillir les critiques. Vous vous rappelez peut-être de Nabal. Non, ça ne vous dit peut-être rien. Si je ne me trompe pas, ça doit être le premier mari à l'époque où on était à. De Bethsabée, et alors c'est les gens qui disent de lui, c'est un vaurien à qui on ne peut rien dire. Donc, c'est même pas la peine de faire une critique, il va justifier ou il va se mettre en colère ou voilà. Voilà, donc, et quelque part, je lisais ça, c'est quelque part l'orgueil rend idiot. Car un orgueilleux possède toujours des bonnes excuses pour justifier ses erreurs. Au lieu de les assumer et d'en chercher la cause, il préfère se protéger en niant sa responsabilité et cette attitude l'empêche de progresser. Donc, reconnaître ses torts, c'est un chemin d'humilité. Un chemin d'humilité aussi, c'est quand, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais quelquefois, il y a des fautes, quand elles sont commises en public, ça nous gêne un peu plus que quand c'est... vous vous mettez en colère devant tout le monde, après vous êtes tout gêné. Oh là là. Mais si c'est juste avec votre mari, ça vous gêne moins. Ben non, c'est... on voit quelquefois, voilà. Alors peut-être que justement, le bon Dieu veut se servir de ça, hein, c'est ce que disait Saint François de Sales juste avant. Oui, il sert quelquefois des choses que on aurait voulu éviter, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, alors la confession, c'est un lieu aussi où voilà, reconnaître ses torts, ben, c'est le lieu par excellence où on va. On raconte, c'est dans la vie de Saint François d'Assise. Il y a un frère que tous considéraient comme saint et tout ça, mais il y avait un petit détail quand même qui clochait. C'est qu'il ne voulait jamais se confesser. Alors Saint François dit non, là. Non, il y a un petit problème. Alors Saint François vient le voir, dit ben, tu vas aller te confesser. Et puis finalement, le frère a quitté la communauté, il a mal tourné. Mais voilà, parce que voilà, reconnaître ses torts. Voilà. Huitièmement, il faut que j'avance, mais ça va être court les deux derniers, ou à peu près. Huitième, c'est juger durement les autres. Ça complète avec ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est reconnaître ses torts, mais il y a des pères de l'Église qui disent qui s'excusent, accusent. Donc, pour s'excuser, bon, on accuse les autres et du coup, on juge les autres. Voilà. C'est Claude Lacolombien qui disait « Un homme humble ne voit que ses défauts à lui. Et c'est une marque de peu de vertu de remarquer les imperfections d'autrui. » Vous remarquez les imperfections d'autrui? Quand on se connaît bien misérable, on ne trouve point mauvais qu'on nous méprise. Parce qu'on voit que cela est juste. Voilà. Et puis le neuvième point, c'est mal réagir lorsque survient l'humiliation. J'ai déjà un peu évoqué, mais ce qui est important, c'est de ne pas fuir à tout prix l'humiliation. De la crainte d'être humilié, délivre-moi Jésus, je ne sais pas, mais en tout cas, si je suis humilié, aide-moi à bien réagir. D'être méprisé, d'être calomnié, oublié, je n'ai pas tellement envie d'être calomnié, hein, ou tourné en ridicule ou injurié, je n'ai pas trop envie, mais aide-moi à bien réagir ce jour-là, si ce jour-là arrive. Et pas fuir ce danger-là parce que je prends une position. C'est vrai qu'on voit bien dans la société actuelle, si on prend certaines positions, il y en a qui sont à l'affût pour nous critiquer, c'est évident. Et alors là, il faut accepter d'être dans une position pas confortable. Là, oui. Donc, accepter l'humiliation dans ce sens-là, oui. Vous vous rappelez du passage de Moïse, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12. Ah, c'est ce que vous avez vu avec Myriam. Moïse a été très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. C'est beau parce que finalement, il ne se défend pas lui-même. C'est Dieu, du coup, qui vient le défendre. Et du coup, je pense que c'est une manière de... aussi dans tout ça de remettre notre vie vraiment entre les mains de Dieu pour que voilà, notre vie lui appartient. Et voilà, l'humilité, c'est, je pense, s'enracine, ça nous incite à nous enraciner davantage en Dieu et voilà, et trouver en lui notre force, parce que encore une fois, L'humilité, s'il n'y a pas de... Si le sol se dérobe sous nos pas, c'est compliqué. Hein. Donc, voilà. Être sûr de l'amour de Dieu. Voilà, alors, bon, on pourrait terminer sur Marie, hein, l'humble servante du Seigneur. Mais voilà, je ne vais pas rallonger, j'ai déjà dépassé mon heure. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Comment montrer à une personne qu'elle est orgueilleuse si elle ne s'en rend pas compte? Alors déjà, qu'elle a des attitudes orgueilleuses, après nous on n'est pas là pour juger le cœur, mais je pense que ce qui est important, je pense, c'est de rester assez factuel, parce que la personne n'a pas forcément les 9 attitudes orgueilleuses. Hein? Mais je pense que d'être factuel, de montrer comment telle attitude aussi a des répercussions sur la vie familiale ou sur la vie du groupe ou dans sa relation avec Dieu. Enfin, je n'ai pas vraiment de solution miracle, hein, mais je reviens à cette citation du Père Lamy que j'ai prise au début. Voilà le secret de la puissance des saints près des âmes. Les saints convertissaient les âmes. Le cœur rempli de l'amour de Dieu, ils en avaient versé le trop-plein dans les âmes avec humilité et tant de douceur que l'orgueil humain était vaincu. Si, avec quelqu'un qui a des attitudes orgueilleuses, si, ça peut être une escalade assez vite. Donc, il ne faut pas rentrer dans cette escalade, mais plutôt, justement, passer par en dessous, pour ainsi dire. Et je trouve assez beau, il y a des manières de faire qui font que la personne est un peu déstabilisée et du coup, réagit pas comme elle réagirait habituellement, parce que habituellement, c'est vrai que quand on est agressé, ben, on répond. Mais du coup, il y a peut-être trouver une autre stratégie, en quelque sorte, pour rencontrer cette personne, mais par le cœur, quelque part, plus que... après ça dépend de la personne, mais en tout cas sous un angle différent, je vois bien en exerçant l'autorité aussi que imposer les choses, ça marche pas bien à l'heure d'aujourd'hui, ça marche pas beaucoup, hein, donc c'est aussi comment dire les choses, comment m'adresser aussi à l'intelligence de l'autre, comment... Et alors, à certains moments, il y a des décisions à prendre, hein, mais au maximum, faire un chemin ensemble. Oui, je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein, mais... Mais sinon, voilà, c'est... On se bute, donc c'est pas par la force... qu'on peut convaincre quelqu'un.
Peut-être dire, tu me fais de la peine en lui disant ça, peut-être que l'autre qui ne connaît pas cette forme, va justement pas répondre. Là, c'est quoi tu fais de la peine?
Oui, ça peut être une. Ça peut être. De fait, quelquefois. Si on se met à pleurer, ben l'autre il se dit oh là, j'étais un peu loin. Et du coup, oui, après, vous voyez, selon votre interlocuteur, ça dépend un peu de la personne en face et du lien que vous avez aussi avec la personne, mais ça peut être dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Dans toutes ces situations, c'est vraiment une relation interpersonnelle, donc ça dépend et de vous et de l'autre. Donc il n'y aura jamais de solution générale, mais ça peut être une possibilité dans certains cas. En tout cas, ça rejoint cette position, plutôt une position basse quelque part, et en tout cas pas une position accusatrice. Voilà ce que ça produit en moi, en tout cas. Et voilà, ça m'a un peu démotivé, ce que tu m'as dit. Ben, non, on n'est pas obligé forcément d'être d'accord. Non, on peut avoir des points de vue différents, c'est normal. Et après, c'est la manière dont on les... Voilà, est-ce qu'on accepte d'écouter l'autre ou est-ce que... Voilà, après, on a le droit d'avoir chacun son point de vue, c'est normal.
Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur votre image de la masse du Saint-Bernard ?
Oui.
En fait, c'est quand vous dites remplir la masse pour qu'ensuite elle ruisselle, vous avez fait un parallèle avec donc, l'amour de soi. Est-ce que c'est que l'amour de soi ou est-ce que c'est reçu ?
Alors, de toute façon, il ne faut pas durcir trop les choses dans le sens où la vasque, elle ne sera jamais complètement pleine. Donc, il ne faut pas attendre. C'est comme celui qui dirait, je vais commencer à évangéliser le jour où je serai saint. Donc, bien sûr, il ne partira jamais à ce moment-là. Donc, il ne faut pas attendre. Mais l'idée de Saint Bernard, c'était de prendre soin de soi aussi. Et que ce n'était pas un péché de prendre soin de ça. Je pourrais le dire comme ça. Par exemple, une mère de famille, il faut qu'elle prenne soin d'elle si elle veut être pouvoir donner quelque chose à ses enfants. Si elle ne prend pas assez soin d'elle, alors vous sentez, c'est un équilibre. Si elle laisse ses enfants à la maison, elle ferme la porte à clé, puis elle va faire du lèche-vitrine pendant ce temps-là. Non, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Hein, mais de regarder nos vrais besoins. Il faut que nos vrais besoins, quand même, veillez à les remplir. Et je crois que c'est notre cas à tous. C'est ma situation actuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même en ce moment à gérer, etc. Et du coup, clairement, je me suis dit, il y a des choses là, il faut que je tranche et que... Parce que faut que je prenne soin. Si j'explose en vol, ben, on est bien avancé. Donc, il y a une sagesse à aussi prendre, s'aimer soi-même, prendre en compte aussi sa vulnérabilité et pas présumer de ses forces pour se donner. Parce que après, si on explose en vol, ben, on a tout perdu et puis voilà, on a tout gagné là. Et comme une mère de famille qui se donnerait, mais qui de manière, il faut vraiment se donner à ses enfants, hein, je ne suis pas contre. Mais en même temps, il faut une certaine sagesse quand même. On sent qu'à certains moments, on a besoin. Alors, ben, le petit, peut-être qu'il braille toutes les nuits, donc c'est pas forcément simple de se reposer comme on voudrait. Mais il faut essayer de trouver autant qu'on le peut des moyens pour prendre soin de soi, mais pas égoïstement. Le but, c'est de pouvoir être encore en mesure de donner, sinon à un moment on serait épuisé. Et puis, donc il y a une certaine sagesse quand même, je crois, à trouver, qui est l'humilité, c'est la vérité, et c'est la vérité de ce que je suis aussi avec mes limites, et je dois prendre en compte mes limites, sinon ça peut faire des dégâts. Voilà. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein, mais voilà, de toute façon on ne peut pas attendre que la vase soit à bord, ça c'est pas comme ça que ça marche.
Vous avez parlé d'égocentrisme, c'est la même chose que l'égocentrisme ?
Alors, oui, c'est un peu la même chose, hein, mais on voit bien, c'est peut-être un terme qu'emploie assez volontiers le pape François, et dès avant l'élection, il parle de autoréférentiel, hein, c'est souvent quelque chose qui... Mais bon, on reste dans la même chose, où on ramène tout à soi, et c'est... On est au centre et tout gravite autour de soi, donc ça rejoint un peu l'idée, la première idée donc de l'orgueil, c'est voilà, tout gravite autour de moi. Et il y a des personnes, à la limite, c'est même pas de mauvaise volonté, dans le sens où elles se sont construites de telle manière que elles voient même pas que les autres, le riche opulent et le pauvre Lazare. Il ne voyait pas le pauvre Lazare à ça, mais bon, il avait une responsabilité quand même, parce que il ne faut pas trop vite évacuer notre responsabilité, Mais petit à petit, on peut se fermer un peu nos écoutilles et du coup, on ne voit plus autour de nous et on est un peu une monade et puis c'est les autres qui doivent graviter autour de nos besoins, satisfaire nos besoins. Et non, et justement, là, il faut... Alors, comment faire bouger le système pour que, voilà, que ça soit vraiment la Terre qui tourne autour du Soleil et pas... Et pas que la Terre prétende que tout tourne autour d'elle. Quelquefois, il faut peut-être, quelquefois c'est à travers une épreuve ou ça, voilà, c'est, ça se fait pas forcément dans le coton. Quelquefois, c'est ces changements, hein. Mais c'est un changement nécessaire quand même. Enfin, mais qui peut pas se faire si la personne ne l'accepte pas quelque part ou ne consente pas à un certain moment. Non, ben je pense qu'on a besoin de reconnaissance. Alors, c'est là où on met le curseur. On a besoin de reconnaissance. D'ailleurs, le Benoît de reconnaissance, le mot reconnaissance a plusieurs significations. Par exemple, quand il y a des charismes, il faut qu'il y ait une confirmation des charismes. C'est le pape François qui dit avec humour, il dit... Bon, il y a un monsieur qui pense bien chanter et tout ça. Et son voisin, tu nous casses les oreilles. Alors, c'est important pour tous les charismes, c'est important qu'il y ait une confirmation. Mais c'est une confirmation, c'est une reconnaissance. Je reconnais que tu as ce charisme. Et c'est important, on a besoin de ces reconnaissances dans le sens où ça nous confirme qu'on va dans une voie qui est bonne. Et je pense que la reconnaissance est importante. Et puis, on a besoin de remplir un peu notre réservoir émotionnel. On n'est pas, il ne faut pas penser qu'on est des... Enfin, moi, je ne suis pas comme ça. Je ne vous invite pas forcément à me remercier. Mais ce n'est pas ça la question. Mais on a besoin d'avoir des retours aussi quelquefois. Pas pour s'enorgueillir ou tout ça, mais... C'est quelquefois compliqué quand on n'a pas de retour, on ne sait pas si on a bien fait, si on a mal fait. Du coup, c'est important d'avoir des retours. Et la reconnaissance, ce n'est pas forcément mauvais. Après, si on fait les choses pour avoir de la reconnaissance, ça c'est une autre affaire. Hein, c'est une autre affaire. On ne fait pas les choses pour avoir de la reconnaissance. Mais on a la reconnaissance comme par surcroît. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Mais on l'a et on en rend grâce à Dieu. Mais donc, non, il ne faut pas. Je pense qu'il y a des images de l'humilité qui ne sont pas forcément. Qui, en tout cas, ne me paraissent pas très, très justes. Un peu inhumaines, un peu désincarnées, je trouve. Parce que, bon, on est en chair, en os, et puis on a nos besoins, hein, tout simplement. Après, ne pas le faire pour, oui, bien sûr. De rectifier nos intentions, je le fais pour servir, pour. Pour la gloire de Dieu, oui. Après, mais si par surcroît je recroise, bah, tant mieux. Tant mieux.
C'est important de remercier Dieu quand on
attend. Ah oui, oui. Ah oui. Là, c'était la reconnaissance pour nous, mais dire notre reconnaissance à Dieu, oui, bien sûr. Alors, j'ai pas beaucoup développé sur la louange, mais la louange va de pair avec l'humilité. Ce fait de s'émerveiller devant ce que Dieu nous a donné. Et encore une fois, je pense que le bon Dieu était content d'accueillir Sainte-Claire. Vraiment, d'être reconnaissant. Ben, de toute façon, on le voit bien dans notre expérience. Vous donnez quelque chose, vous n'avez aucun merci, tout ça, ça ne vous stimule pas beaucoup à redonner. Mais vous voyez que ça fait plaisir, bah, vous avez envie de refaire plaisir, et puis voilà, et c'est comme ça que ça marche. Hein.
Il y a une petite question. Les chants de louange peuvent nous unir et nous aider. Vous voyez que c'est en chantant, bien sûr, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais est-ce que ça peut justement aider à atteindre l'humilité?
Ça peut aider, ça ne nous mènera pas automatiquement à l'humilité. Mais ça peut nous aider à nous décentrer de nous-mêmes. Et alors, il y a différents points sur lesquels rejaillit la louange, mais effectivement, la louange, ça nous décentre de nous-mêmes, ça nous, ça nous ouvre le cœur, il y a quelque chose qui se passe dans la louange. Et c'est pas uniquement les chants de louange, c'est une attitude de louange où on est plutôt dans une attitude ouverte, où on voit le bien des autres, où, que font les autres, le bien que nous fait Dieu, le bien qu'est Dieu. Et donc ça nous ouvre les yeux sur... je crois que l'humilité va quand même... La joie, je crois qu'elle est... La vraie humilité, je crois, va de pair avec une forme de joie. C'est un François d'Assise qui parle de la joie parfaite, mais je ne sais pas si vous connaissez le passage, mais c'est très lié à l'humilité, cette joie parfaite pour ce jour-là.